L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « Le veau d'or ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton appel. Bénis ces hommes, bénis ces femmes qui nous écoutent en ce moment de par le monde, sur des radios FM, sur des radios Internet, sur des supports informatiques, sur des sites Internet. Que ton Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous, Père. Dispose nos cœurs, car nous avons besoin d'entendre ta parole. Aujourd'hui, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de faussetés. Permets, Seigneur, que ce message atteigne son but. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fente. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Une triste histoire, mais qui nous enseigne sur beaucoup de choses dans notre marche chrétienne de tous les jours. Ce qui est arrivé dans Exode 32 se répète, je suis tenté de dire, se répète dans chaque génération. Parce que vous savez, quoi que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ, Satan ne peut pas s'empêcher et ne va pas s'empêcher de tenter de nous détruire. Israël, ici, est sorti de l'Égypte sous la conduite de Dieu au travers de Moïse. Moïse, ici, représente Jésus-Christ. C'est un type de Jésus-Christ. Moïse va monter à la montagne de l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits, il va recevoir des instructions de Dieu sur le tabernacle, sur le culte, sur la manière de vivre, sur la manière de se comporter, sur la manière de marcher avec lui. Pendant 40 jours et 40 nuits, malheureusement pour Israël, ces 40 jours et 40 nuits vont devenir un moment d'impatience. En fait, je me pose même la question. Mais qu'est-ce que ça aurait changé pour eux s'ils avaient eu un autre libérateur, s'ils avaient eu une autre personne qui les avait conduits? Parce que de toute façon, c'était au travers de Moïse que Dieu devait emmener Israël à Canaan. Donc, si Moïse n'était pas là, en principe, il ne devait pas aller. Il n'y aurait pas eu une autre personne qui allait les conduire parce que c'est Dieu qui établissait le guide. C'est Dieu qui établissait celui qui les conduisait. Il n'a établi personne. Israël s'est fabriqué un conducteur. Israël s'est fabriqué un berger. Israël s'est fabriqué un veau d'or qui devait leur représenter l'image de Dieu. C'est vraiment de la folie. 1 Corinthiens 10, verset 6, nous l'avons lu dans les émissions précédentes, mais j'aimerais encore le lire. 1 Corinthiens 10, verset 6. Vous y êtes? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul parle aux chrétiens de Corinthe, Et il fait référence à ce qui s'est passé avec Israël dans le désert. Commençons au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. En d'autres termes, pour pratiquer des actes sexuels répréhensibles. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9. Tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'autres qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Paul est en train de nous dire ceci. Ce qui est arrivé à Israël dans le désert va arriver aujourd'hui aussi. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui a combattu Israël dans le désert, c'est le même ennemi à qui nous sommes en train de faire face. Le Dieu qui les a sortis d'Égypte, c'est le même Dieu qui nous a sortis du péché aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous ne vivons pas quelque chose de nouveau. Non, les tentations qui nous viennent aujourd'hui sont les mêmes tentations qu'il y avait hier. Israël s'est assis, mangé, boire, et ils ont commencé à se divertir. D'autres versions, au lieu d'utiliser le verbe divertir, parlent de la débauche sexuelle, des orgies sexuelles. Vous imaginez? Est-ce que Dieu leur avait demandé de faire ce genre de choses? Non. Mais leur mentalité, c'était la mentalité des esclaves de l'Égypte. Ils avaient vu ces choses en Égypte. Ils n'ont fait que les copier dans leur marche avec Dieu dans le désert. Ils n'ont fait que l'appliquer, le copier, l'appliquer. Je suis même tenté de dire copy-paste, comme dans le domaine informatique. Ils n'ont fait que des copy-paste, copy and paste, dans leur marche avec Dieu dans le désert. Et pour nous qui sommes arrivés dans les temps de la fin, Paul est en train de nous dire, c'est la même chose. C'est la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, la statue n'est pas en or, mais il y a quand même des statues. Peut-être que pour nous, aujourd'hui, nous ne nous prosternons pas devant des statues, mais nous pratiquons des actes qui sont répréhensibles par la Bible. Des orgies sexuelles, de la cloutonnerie, de la pornographie, le mensonge, l'adultère, la fornication, les avortements, l'homosexualité. Nous nous assemblons autour d'un type d'Aaron qui est un type de faux pasteur, qui est un type de faux chrétien, qui est un type de... pour lui dire, écoute, fabrique-nous un Dieu qui va approuver notre vie de péché. Et Aaron, qui a peur dans Exode 32, qui veut faire plaisir à la communauté, va commencer peut-être même à chercher les versets, va tordre les sens pour appuyer ce que le monde approuve. Vous savez, le diable n'a pas peur de la Bible. Dans le désert, ça va peut-être vous choquer, dans le désert, lorsque Jésus est éprouvé, le diable va sortir, va citer des versets bibliques. Il les connaît, mais il va toujours les citer dans le sens de vous perdre, dans le sens de vous détruire, dans le sens de vous éloigner de Dieu. L'histoire que nous avons lue dans Exode 32 me fait tristement penser au temps de la fin. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'unité qui va se présenter contre Dieu. Moïse est monté à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse est un type de Christ. Christ est monté et s'est assis à la droite de son Père. Il reviendra. Cette période d'absence que Moïse a fait de 40 jours et 40 nuits, c'est l'égal de la même période que Jésus-Christ, absent physiquement sur cette terre, mais il a laissé l'Église entre les mains de certaines personnes pour conduire son Église. Mais malheureusement, certaines de ces personnes, parce qu'elles veulent faire plaisir au monde, parce qu'elles veulent être comme le monde, va commencer à prendre des images, va commencer à prendre des exemples dans la mondanité, dans le monde de péché, et va commencer à l'appliquer dans les églises dites chrétiennes. Attention, mon frère. Attention, ma sœur. C'est pour cela que je vais toujours vous encourager, vous qui m'écoutez. Peu importe votre communauté, je vais toujours vous encourager, et vous entendrez ça très régulièrement. Je vais toujours vous demander de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est très important d'examiner tout ce qui vous est enseigné, même ce que je suis en train de vous enseigner, de l'examiner par rapport aux Écritures. Soyons comme ces chrétiens de Bérée, qui lorsque Paul prêchait, Paul leur enseignait, ils examinaient ce que Paul disait sur les Écritures. Vous savez, nous avons une grande responsabilité. La Ligue pour la lecture de la Bible dit que le livre le plus lu, c'est la Bible. Le livre le plus traduit, c'est la Bible. Mais malheureusement, moi j'ajoute, le livre le moins lu, c'est la Bible. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, il y a des Bibles partout. Même dans des hôtels, dans des motels, il y a des Bibles partout. Mais combien d'hommes et de femmes prennent le temps de lire ce qui est écrit? Si nous lisions la Bible d'un bout à l'autre, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas eu de dérapage dans beaucoup d'églises, qu'il n'y aurait pas eu de faux docteurs, de faux enseignements dans beaucoup d'églises. De Pierre 2, verset 1. Pierre nous dit ceci sur les faux docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Pierre parle d'Israël d'avant. Il dit, il y a eu des faux prophètes à l'époque d'Israël dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, il y aura des faux docteurs. C'est qui des docteurs? D'autres versions parlent de faux enseignants. Il y aura de faux enseignants. Ils vont enseigner des choses et leurs caractéristiques seront, premièrement, ils vont vous demander de rejeter Christ. Et ils vont vous dire, ce n'est pas Christ seulement qui peut vous sauver par la grâce. Ils vont vous enseigner des choses qui ne sont pas de Christ pour être sauvés. Attention, ils vont même aller plus loin, vous enseigner que Christ ne vous a pas racheté. C'est exactement ce que Israël, dans Exode 32, verset 4, dit lorsqu'il voit le veau d'or. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais mon frère et ma sœur, réfléchissons un peu. Lorsque Moïse est en train de frapper l'Égypte, lorsque Dieu, au travers de Moïse, est en train de frapper l'Égypte par les 10 plaies, la statue là qu'on a fait dans Exode 32, elle était où? Elle n'existait pas. Lorsque Moïse va prendre son bâton et frapper la mer et que la mer rouge va se séparer en deux, lorsque Israël va traverser cette mer là, lorsque Moïse va demander à cette mer de se refermer, la statue là de Exode 32, elle est où? Elle n'existe pas. Mais dans Exode 32, voilà des hommes qui se lèvent et qui disent, voici celui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Ça n'a pas de sens. À moins que qu'on veuille rejeter le Dieu vivant. C'est ça, les faux enseignants. C'est ça, les faux docteurs. Ils vous enseignent, ils vous disent, d'accord, le stade numéro 1, oui, vous vous êtes sauvés par Jésus-Christ. Le stade numéro 2, on vous demande d'aller plus loin, de voir au-delà de Christ. Ils vous emmènent dans des enseignements, ils vous disent, allez au-delà de Christ. Mais il n'y a rien au-delà de Christ. Christ est tout. Christ est la vie. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Christ. Et pourtant, on va vous enseigner autre chose que Jésus-Christ. D'autres même vont vous enseigner qu'il y a d'autres rédempteurs que Jésus-Christ. Certains vont même aller plus loin en parlant de la mère rédemptrice. Attention. D'autres vont vous dire que Jésus est un chemin qui mène à Dieu. Non, Jésus est le chemin qui mène à Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. Ils vont maintenant commencer à vous enseigner à refuser cela. Ils vont vous dire, élevez-vous, allez à des niveaux supérieurs. Non, il n'y a rien au-dessus de Christ. La Bible nous dit que Christ a été élevé au-dessus de tout ce qui peut être cité aujourd'hui et dans l'avenir. Il a eu un nom qui, vous savez, Christ s'est tellement rabaissé, il n'y a personne qui puisse se rabaisser plus bas que Christ. Et c'est pour cela que le Père Céleste l'a élevé au-dessus de tout. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va occuper une position au-dessus de Christ. Mais pourtant, les faux docteurs enseignent aujourd'hui que les hommes doivent se lever au-dessus de Christ. Attention, il n'y a rien au-dessus de Christ, parce que Christ, c'est tout. Il remplit l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il n'y a rien au-dessus de Jésus-Christ, et il n'y a rien en dehors de Christ. Ils vont vous enseigner à renier le maître qui les a rachetés, vous voyez. Israël, qui t'a sorti d'Égypte? Est-ce que c'est le veau d'or ou c'est le Dieu d'Israël? Parce que si c'est le Dieu d'Israël, il dit dans Exode 20, verset 23, que puisque tu m'as vu te parler, tu n'as pas vu mon visage, alors ne construis pas une statue qui me ressemble. Mais quelques versets plus loin, Israël va construire une statue. Folie des hommes, folie des hommes. 2 Pierre 2, verset 14. 2 Pierre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont les yeux pleins. En fait, qu'est-ce qui se passe avec Israël dans le désert? C'est comme j'ai dit, physiquement, ils ont été libérés de l'Égypte. Mais leur mentalité est restée la mentalité du monde. Alors vous imaginez, même dans le Nouveau Testament, la personne est née de nouveau, il n'y a pas de problème. Elle est peut-être même baptisée du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Elle est peut-être pasteur, il n'y a pas de problème. Mais sa façon de réfléchir, c'est la façon de réfléchir du monde. La Bible n'est pas son guide. La Bible n'est pas sa boussole dans cette vie. La parole de Dieu n'est pas son repère. Il ne s'assit pas sur la parole de Dieu pour construire sa vie. Il s'assit sur les traditions des hommes. Il s'assit sur la mentalité des hommes. Et c'est tout à fait normal qu'on le retrouve. Il se marie, il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie, il divorce. Il pratique une sexualité, j'allais dire outre mesure, qui dépasse les normes, qui dépasse le cadre même que Dieu a tracé à un homme et une femme. Ils sont homme-homme. Femme-femme, ou ils pratiquent des orgies sexuelles. C'est ça l'histoire du veau d'or. Ils se sont assis pour manger, pour boire, et puis ils ont commencé à se divertir. Ils aiment le plaisir de la chair. Ils veulent satisfaire la chair. Mais ils ne comprennent pas que celui qui veut satisfaire la chair marche contre Dieu. Parce que Dieu veut que la chair meure, que la chair ne s'exprime plus. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Verset 18, toujours de 2 Pierre 2, verset 18. Avec des discours enflammés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Vous voyez? Ils les encouragent en d'autres termes. Ils trouvent, ils disent, non, c'est normal. Ah, vous voulez pas vous marier, mais vous voulez vivre dans le copinage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu s'est modernisé. Ils annoncent des choses pareilles. Écoutez les musiques du monde. Il n'y a pas de problème. Vivez dans le péché. Il n'y a pas de problème. Dieu est amour. Il vous aime tellement qu'il va jamais permettre que vous alliez en enfer. C'est le rôle de Aaron, pardon. c'était le rôle de Aaron de dire à Israël, non, ne vivez pas ainsi. Mais il nous est dit, je crois, au verset 5 de Exode 32, quand Aaron a vu cela, qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a vu que le veau d'or a plu à Israël, il décrète le lendemain une fête. En d'autres termes, pour les encourager, c'est bien, nous avons fait le bon choix. Et comment ils ont commencé à se comporter? Ils ont commencé à vivre dans des orgies sexuelles. Attention, mon frère, attention, ma sœur, Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a condamné dans l'Ancien Testament, il le condamne encore aujourd'hui. De Timothée 3, versets 1 à 4, il est dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et quand on parle de plaisir ici, on parle du plaisir de la chair. Il est marié, mais il ne peut pas se limiter à seulement sa femme. Il veut toutes les femmes de la terre. Il veut toutes les jeunes filles de la terre. Elle est mariée, mais elle ne peut pas se contenter de son mari. Elle veut tous les hommes. Alors d'autres même se disent, mais à quoi ça sert de se marier? Vivons comme ça. Aujourd'hui on a le partenaire A, demain c'est le partenaire B. Des fois même c'est l'ensemble de tous les partenaires de A à Z. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Mais pourtant, ils vont à l'église. Ils font profession de connaître Dieu. Et ça c'est les caractéristiques des temps de la fin. Ils sont unis. Ils se disent non. Moi je suis Lévite. Moi je suis Judas. Moi je suis Ruben. Ils s'unissent ensemble pour adorer un veau d'or. Ils s'unissent pour adorer un veau d'or. Attention. Attention, mon frère. Attention, ma sœur. Tite, premier chapitre, verset 16. Vous y êtes? Tite 1, verset 16. Il est dit ceci. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ouais. Ça, c'est toujours les caractéristiques des temps de la fin. Ils font profession, donc ils disent qu'ils connaissent Dieu. C'est exactement Israël dans le désert, dans cette histoire de Exode 32. Ils voient la statue, ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. En d'autres termes, ils associent ce Dieu-là, cette statue, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce ne sont pas des païens. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent Dieu. Mais leurs œuvres montrent qu'ils ne servent pas Dieu. Leurs œuvres montrent qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne servent pas Dieu, qu'ils sont déloyaux, qui ne sont pas fidèles au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la même chose pour nous dans le Nouveau Testament. Ils disent, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, je vais à l'église, je prêche l'Évangile. Mais leurs œuvres montrent que Jésus-Christ n'est pas leur Seigneur. Ils disent, Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur. Vous savez, tout le monde peut dire, Jésus est mon Sauveur. Mais seul Dieu voit qui appartient réellement à Jésus-Christ. Ils disent, je vais à l'église, je connais le pasteur tel, je suis le fils du pasteur tel, j'ai engendré le pasteur tel, je prêche l'évangile, je suis évangéliste. Mais leurs œuvres montrent que ils n'appartiennent pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment plus le plaisir que Dieu. Le plaisir est devenu leur Dieu. Israël, dans le désert, c'était la même chose. Lorsqu'ils ont fait ces orgies sexuelles, lorsqu'ils se sont assis pour manger et pour boire. Le veau d'or, là, c'est l'image de la débauche sexuelle. En fait, ils étaient en train de rendre culte à ce Dieu-là, en pratiquant ces choses. C'est l'image de la cupidité. Et quand vous allez lire l'histoire de Exode 32, on parle du désordre. Moïse va voir, il va se rendre compte que c'était le désordre dans tout le camp. Les voleurs étaient laissés libres. Les débauchés, les adultères, les menteurs, c'était le désordre total. C'est l'image du veau d'or. Mais ils sont tous unis pour adorer ce veau. Dans le désordre, dans la débauche. Et ils se disent, non, c'est toi notre Dieu, on n'en veut pas un autre. Mon frère, ma sœur, les actes que nous posons montrent qui nous sommes en train d'adorer. Ce n'est pas un message de condamnation. Peut-être que je vous ai fait mal, je m'en excuse. Mais ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de réveil. Parce que les temps sont arrivés à la fin. Jésus va bientôt revenir. Nous allons le voir dans les émissions précédentes, suivantes avec le veau d'or. Quand Moïse va venir, il va exercer un jugement. Nous l'avons lu déjà dans 1 Corinthiens 10. 23 000 personnes vont mourir. Attention, tous ceux qui se disent être des chrétiens ne sont pas tous forcément des vrais chrétiens. Peut-être que vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être que vous êtes de ceux-là qui vous vous dites chrétien, mais vos œuvres montrent que vous n'êtes pas un chrétien. Vous pouvez avoir une carte de membre d'église, de communauté X, de communauté Y, mais vos œuvres montrent si vous appartenez à Christ ou si vous ne lui appartenez pas. Vous savez, le pasteur peut vous dire « vous êtes chrétien », mais Dieu vous dit « vous n'êtes pas chrétien ». Qu'est-ce qui est plus important, ce que le pasteur dit ou bien ce que Dieu dit? Moi, je préfère ce que Dieu dit. Mon frère, ma sœur, si ce message vous a touché, que vous voulez demander pardon à Dieu et prendre l'engagement de marcher droitement devant lui, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel et je te demande pardon. Je viens à tes pieds en te demandant pardon. Pardon parce que j'ai accepté le désordre dans ma vie. Je me dis chrétien, mais mes œuvres montrent que je ne suis pas chrétien. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton message. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le veau d'or. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.